Donc nous avons tout à ma gauche Philippe Aubert-Côté, qui est romancier de science-fiction, à qui on doit un roman qui s'appelle Le jeu du démiurge et pas mal de nouvelles. Il a également suivi des études de biologie et notamment une thèse en bioéthique sur les nanotechnologies au Canada. Nous avons ensuite Vincent Bontemps, qui est chercheur en philosophie des techniques et ingénieur expert en méthodologie de la conception au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA. Il travaille particulièrement sur l'articulation entre la philosophie des sciences, donc l'épistémologie, et la philosophie morale, c'est-à-dire l'éthique. Et un de ses sujets de prédilection qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est l'éthique des relations homme-machine. Et enfin, à côté de moi, nous avons Olivier Parent, qui lui aussi appartient à deux cultures, la culture scientifique et puis la culture artistique, et particulièrement la culture des arts graphiques. Il est consultant en prospective auprès des entreprises et des institutions. Et il a fondé, et il participe évidemment beaucoup, au magazine en ligne Futur Hebdo. Il a également été auditeur à l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut définir la perception du temps chez l'homme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, qui est invariable, qui a toujours été comme ça ? Est-ce qu'on a toujours cette même perception tout au long de notre vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui change quand on est enfant ou quand on est adulte ? Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel, qui change d'un point à l'autre du globe, qui a changé dans le temps aussi ? C'est-à-dire que je pense à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose... Notre perception du temps a-t-elle changé au cours de l'histoire, de façon générale ?
Excusez-moi. La réponse courte, c'est oui. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai.
Comment ?
Comment ? Ensuite, c'est la réponse longue. Et la réponse longue, elle est compliquée. Donc, ça demanderait tout un aéropage, je pense, de connaissances scientifiques pour vous répondre. Mais elle est très variable, la perception du temps chez les êtres humains. Elle a à voir avec des réglages qui sont physiologiques et qui peuvent être déréglés par l'absence de luminosité, par exemple. On connaît tous les expériences, soit de caissons sensoriels, d'isolation, où tout d'un coup, les gens vont perdre toute perception du temps par absence de possibilité de se référer à un référentiel extérieur. Donc on peut rendre les gens totalement asynchrones. On sait aussi les gens qui descendent dans les cavernes et qui vont adopter. Alors ça, c'est un truc un peu amusant parce qu'on peut se demander si du coup ça ne suggère pas l'idée que l'être humain, quand on le laisse totalement au libre, prend un autre type de cycle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il prend des cycles qui d'ailleurs varient, mais en général sont plus longs. Voilà. Donc je sais plus ce que c'est, mais c'est plus d'une trentaine d'heures. Et cela dit, leur perception subjective à l'intérieur de ce cycle, hein, de repos, et donc elle est complètement aussi erratique. C'est-à-dire, ils peuvent avoir l'impression de, ils se mettent à creuser dans un truc, ils disent oh ben, j'ai creusé une ou deux heures, fait non, t'as creusé 16 heures d'affilée, voilà. Et pareil, ils n'auront pas de sentiment. Donc le temps est vraiment une construction. Vous avez un beau livre du au début du XXe siècle, du sociologue Maurice Halvax, qu'un être humain, Robinson Crusoe, même s'il n'était pas isolé et tout ça, aurait aussi beaucoup, beaucoup de mal à connaître son âge ou à faire des choses comme ça. C'est une construction et cette construction a évolué. Donc, sur ce terreau physiologique, les choses ensuite sont construites socialement, culturellement. Je suppose que quand vous parliez du Moyen-Âge, vous parliez de du fait qu'on est passé au Moyen-Âge d'un temps qui était le temps... où il y avait 12 heures de jour, 12 heures de nuit toujours, donc les heures rapetissaient quand on allait, les heures de jour rapetissaient quand on allait vers l'hiver, elles augmentaient quand on allait vers la nuit, alors qu'ensuite on est passé à un temps horloge, voilà, qui permettait à travers la synchronisation avec les cloches, pour ce qui est de notre civilisation, hein, de diffuser d'autres repères et une autre mentalité. On peut voir aussi des sources du capitalisme. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que vous avez aussi des éclairages là-dessus ensuite. Par exemple, entre l'enfance, évidemment, et la vieillesse, où le temps n'a pas du tout la même épaisseur, ce qui est encore un autre problème.
Olivier Parent, du coup.
Moi, j'aimerais juste rapporter une petite anecdote qu'on a amenée à mon attention assez récemment. Si je vous demande tous de me montrer, avec votre main, avec votre bras, où se situe le futur pour vous. Donc, je pense que si on le faisait tous, on irait dans cette direction-là, ou voilà, bon. Eh bien, il y a une culture, alors malheureusement j'ai oublié le nom, qui est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon. Pour eux, l'avenir, il est là. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ce qui est devant eux, c'est ce qu'ils maîtrisent. C'est, donc, la, le passé, c'est ce à quoi ils ont accès, donc c'est devant eux. Et par contre, l'avenir est dans leur dos parce que c'est quelque chose qui est encore en construction. Cette anecdote, juste pour bien montrer que le temps, la perception du temps, est vraiment aussi liée à une culture. Nous, on a la culture de présenter notre avenir devant nous et notre passé derrière nous, et pourtant d'autres savent inverser ou ont appris à inverser pour différentes raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Mais voilà, c'était juste pour petite anecdote.
Mais il y avait plusieurs dimensions dans la question. Si je reprends le côté biologique avec lequel on a commencé, en effet, chaque individu a des rythmes circadiens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rythmes vont varier d'une personne à l'autre et aussi en fonction de l'âge. Donc, bon, il y a le classique que tout le monde connaît. Donc, les enfants qui sont levés à 4 heures du matin, le samedi matin, puis qui viennent réveiller les parents. Ensuite, quand c'est l'adolescence, ben là, on est incapable de l'élever. Ensuite, à l'âge adulte, on se lève un peu plus tôt et il y a les personnes âgées qui ont des rythmes tout à fait rompus. Je pense à mes parents qui, à 3 heures du matin au Québec, alors qu'on était... ici, à 9 h du matin, ben, on s'est parlé en direct sur Internet, puis il n'était pas encore couché, il faisait de l'insomnie. Ouais, donc, en fonction de l'âge, ça varie, mais aussi d'un individu à l'autre. Personnellement, je vois que mes cycles de veille et de sommeil sont assez fixes dans le temps. Je suis incapable de m'endormir avant minuit, mais n'essayez pas de me réveiller avant 8 h du matin si vous voulez survivre. Mais... Et ce qui est fascinant, c'est que même me lever à 7h30 fait que je ne serai pas fonctionnel du reste de la journée, les migraines, tout ça, non. Mais à 8 heures, c'est OK, j'ai les yeux ouverts, il faut que je me lève et impossible de dormir plus. Ça, c'est mon rythme à moi, mais il y a d'autres personnes qu'à 10 heures, ils vont vouloir se coucher, ils vont vouloir se lever plus tôt. Puis vous avez des gens célèbres. Je pense que Albert Einstein avait besoin de dormir 12 heures par nuit, sinon il n'était pas fonctionnel. Thomas Edison, c'était l'inverse. Il dormait 4 heures, 5 heures par nuit. Il était très fonctionnel. Et lui trouvait que bon, ceux qui dormaient plus longtemps que lui étaient des paresseux. Mais on sait que le bonhomme Edison était invivable aussi. Léonard de Vinci avait la réputation de dormir très peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait peur de mourir dans son sommeil. Donc, c'est pas un bon exemple. Donc, d'un individu à l'autre, on a chacun nos rythmes. Et ce qui est intéressant, on pourra y revenir plus tard, c'est que des fois, on peut se demander en termes de travail, d'organisation sociale, la société nous impose des horaires typiques, standardisés, qui des fois ne sont pas compatibles avec les individus. Ça a été, au Québec, il y a des discussions en ce moment, même pour des fois revoir l'horaire des écoles secondaires pour l'adapter au rythme d'apprentissage des adolescents. Comme les adolescents ont besoin de se lever plus tard, est-ce qu'on pourrait leur permettre de se lever plus tard et de leur donner des examens de mathématiques au moment où ils sont plus réveillés? Mais là, il y a la question, c'est que le problème, c'est qu'évidemment, on tire une nouvelle norme, mais il y a toujours des exceptions à la norme, donc on n'est jamais sorti de l'auberge, comme on dit. Donc ça, c'est pour le volet biologique, et c'est vrai qu'au niveau temporel et social, on a une perception du temps différente. J'aime bien l'exemple, l'idée, en effet, que le passé est dans notre dos, puisqu'on ne le voit pas. Le passé dans le dos. Vous voyez, hein, on est tellement habitué, le passé dans le dos, le futur en avant, donc le futur est dans le dos. Puis il y a une anecdote qui m'est revenue aussi. Peut-être que quelqu'un dans la salle va pouvoir confirmer, ou vous, mais il me semble qu'à une époque en Europe, même, on ne faisait pas des nuits complètes. Je crois qu'on vivait dans le jour, on se couchait et on se relevait dans le milieu de la nuit pour faire autre chose. Et on se recouchait. Dans certains romans du 19e, 18e, on voit ça. Ce n'est pas signalé de façon très explicite, mais il y a des chercheurs qui, en lisant attentivement, se sont rendus compte que les personnages se relaient dans la nuit, ils font des choses. Ou la série sur Balzac avec Gérard Depardieu, qui passait plusieurs années, nous montrait ça. Balzac se relevait dans la nuit pour écrire avec du gros café. Puis,
en gros, c'est ça. Genre. Balzac buvait plusieurs litres de café par jour. Alors peut-être que ça a influé là-dessus aussi. Hein.
Non, madame confirme.
D'accord. Donc, on a confirmation. Là.
Voilà. Par contre, du coup, ça pose la question, qu'est-ce qui distingue fondamentalement la notion de temps qu'ont les machines de notre propre... On a vu que notre notion du temps était variable, mais qu'est-ce qui distingue fondamentalement celle des machines?
Alors, en gros, les machines ne connaissent pas ce que c'est le temps. Nous, le temps, dès que c'est un être humain ou certains animaux, c'est structuré par une asymétrie, là, celle dont on parle avec l'histoire, qu'est-ce qui est dans notre dos, qui est devant, parce que on a un passé, un présent avec des frontières un peu floues et des futurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, cette asymétrie, elle n'existe pas pour les machines, mais pire que ça, en fait, les machines ne savent pas vraiment ce que c'est le temps. Pour vous donner une idée, je vais reprendre une expérience de pensée qui se trouve chez un sociologue et historien des probabilités qui s'appelle Éric Briand, et il parle du voyage d'Alice au Pays des Merveilles, et vous savez tous que Alice commence par rencontrer un lapin blanc. Et ce lapin blanc est en retard parce qu'il regarde une montre et il fait « je suis en retard » et il court, d'accord. Mais, et donc là, ce lapin blanc, en fait, en quelque sorte, il nous ressemble, c'est-à-dire il a son propre rythme biologique, il court, et il court parce qu'il se considère en retard par rapport à un référentiel extérieur qu'il a construit, qui est régulier, qui est cette montre. On supposera que la montre marche correctement, ce qui n'est pas sûr dans l'histoire d'Alice, mais voilà. Et puis, plus tard, Alice va tomber sur un autre animal qui lui ressemble beaucoup, mais qui est totalement différent. Elle est chez le Chapelier Fou et elle rencontre le lièvre de Mars. Et le lièvre de Mars, lui, il est l'heure de prendre le thé. Et donc, il boit son thé, il pose sa gueule, puis après, il est l'heure de prendre le thé. Il boit la coupe, et il est l'heure de prendre le thé. Et voilà. Et ils sont complètement enfermés, en train de faire le tour de la table, comme ça, et il est toujours l'heure de prendre le thé. Hein ? Eh bien, une machine, elle ressemble au lièvre de Mars. Fondamentalement, pour la machine, tout est sur l'heure, il est l'heure de faire quelque chose. Voilà. Quand elle fait rien, il ne se passe rien pour elle, il n'y a pas de temps, proprement parler. Alors des fois, on peut essayer de synchroniser avec aussi la montre du lapin blanc le fonctionnement de la machine, en lui disant « tu vas compter 1, 2, 3, machin, et puis tu sauras comme ça que... » Non, mais fondamentalement, la machine, déjà, elle ne peut pas savoir ce que c'est que le futur, parce qu'elle ne peut pas savoir des choses pour nous qui sont comme ça, ni possibles, ni impossibles, indécidables. Elle, il faut que ce soit 0 ou 1, et c'est présent, de toute façon. C'est dans sa mémoire, des informations, elles sont présentes, ces mémoires. Elle ne travaille pas là-dessus. Et Dezio, l'idée donc tout est présent pour elle. Et Dezio, il est toujours 5 heures. Et donc on a vous avez ce décalage. C'est pas pour rien que ce sociologue Éric Briand, il fait cette expérience de pensée, parce qu'il parle de quoi ? Il parle à ce moment-là, il parle des cours de la bourse. Et vous voyez bien dans les cours de la bourse, de sa manière, vous voyez des courbes. Hein. Eh bien, sur l'axe des ordonnées, il y a le lapin blanc qui court. Et donc vous voyez des variations en fonction des secondes qui appartiennent à notre temps social. Mais si vous vous mettez, pour ainsi dire, à l'intérieur du temps des machines qui sont celles qui donnent les ordres, hein, d'accord ? Donc si vous vous mettez à l'intérieur de la courbe, vous pouvez plutôt que de regarder en termes de secondes, ce qui est totalement abstrait, les machines ignorent ce que c'est que des secondes, vous pouvez regarder par nombre d'ordres donnés. Parce qu'il y a des moments où il y a 10 000 ordres qui passent en une seconde, puis il y a 2 heures où c'est la nuit et où il y a rien qui se passe, parce que New York a terminé, Tokyo n'a pas encore commencé. Et donc voilà. Et donc, vous aurez une courbe tout à fait différente. Si vous vous mettez à l'intérieur du référentiel qui est celui du temps des machines, hein, ça sera totalement différent. Donc vraiment, ce qui structure, c'est que nous, on a un temps, d'abord ce temps orienté, subjectif, avec un passé, un futur. Ensuite, on a un temps historique, c'est-à-dire on se situe dans une histoire. Et tout ça, ensuite, est situé sur ce temps chronologique, alors que les machines, elles n'ont déjà pas vraiment d'appréhension de ce que c'est que le temps chronologique. On peut les synchroniser avec, mais elles n'en savent rien. Et elles n'ont aucun accès aux deux autres. Elles peuvent faire semblant, ou on vous construit des mythes, on vous fait croire qu'elles en tiennent compte. Mais en fait, elles sont comme le lièvre de Mars. Il est 5 heures, il est temps de boire.
Mmh. J'aime bien ton allusion, justement, au cours de la bourse, m'apporte une réflexion. Les machines, en effet, n'ont pas conscience du temps, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'être humain donne aux machines la capacité de travailler à des échelles de temps qui nous sont inaccessibles. Donc, dans le cas des opérations boursières, il y a une pratique, je ne me souviens pas s'il y a une expression française plus adéquate, mais qu'on appelle communément le trading haute fréquence.
Oui, c'est la même en français.
Pardon?
C'est la même chose en français.
C'est la même chose en français. Bon, excellent. Et que c'est... Donc, on permet à des ordinateurs, en gros, de faire des milliers d'opérations par microseconde. Donc, par millionième de seconde, elles peuvent faire des milliers d'opérations bancaires. Donc, tout ce que les anciens traders à la bourse faisaient, là, avec leurs papiers, puis acheter, vendre, tout ça, bien, les machines peuvent le faire. Donc, c'est des ordinateurs très puissants qui le font. Et ce qui est fascinant, c'est que ça a l'air intéressant. OK, les machines vont remplacer des traders qui ne se reposeront pas plus parce que bon, ils ont quand même autre chose à faire puis ils font des crises d'honneur comme tout le monde. Mais les machines, donc, les remplacent et on se dit « Ah, la bourse va fonctionner de façon plus efficace, tout ça. » Oui, mais le problème, c'est que les machines qui travaillent à cette vitesse-là peuvent causer des catastrophes. Et c'est arrivé à plusieurs à plusieurs reprises un phénomène qu'on appelle un flash crash, c'est-à-dire que les machines font des opérations boursières et soudain, il y en a une qui vend trop d'actions. Et là, ça suscite un mouvement de panique chez les autres machines. Quand ça arrivait chez les êtres humains, on avait le temps de dire « Oh, un tel se départit de ses actions. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que je devrais vendre mes actions? Je vais aller au renseignement. Ah non, OK, finalement, il y a une, comme on dit chez nous, il y a une bulle qui lui a passé au cerveau. Donc, il n'y a pas de danger. Donc, pas besoin de vendre mes actions puis de faire paniquer la bourse. » Mais les machines n'ont pas ce réflexe-là. « Oh, la machine d'en face vend ses actions. » Oups, l'autre à côté commence à limiter, l'autre aussi, ben, je vais faire la même chose. Donc, toutes les machines s'emballent, prennent des actions boursières irréfléchies, et là, le bordel prend, et c'est que ces décisions boursières-là ne reflètent pas la réalité. Je veux dire, si une machine dans une compagnie a vendu toutes les actions, c'est pas que la compagnie va mal, c'est parce que les autres machines l'ont fait, et ça peut avoir des conséquences graves, parce que là, une compagnie peut faire faillite alors qu'elle est en bonne santé. Un pays peut faire faillite alors qu'il est en bonne santé. Et c'est que le phénomène est très vite. Les machines travaillent en millionième de seconde. Et je crois quand, je ne me souviens pas quelle année, 2008-2009, il y a eu un flash crash comme ça qui a fait avoir des conséquences catastrophiques. Il a fallu arrêter tous les ordinateurs de la Bourse de New York pendant 5 minutes, ce qui est long à l'échelle de la Bourse, et pour dire aux machines de se calmer et repartir. Donc, les machines travaillent à une vitesse avec une perception du temps qui n'est pas la nôtre. On leur a donné ce pouvoir-là. Ça a des avantages, mais ça a de très gros inconvénients qui peuvent avoir des catastrophes au niveau mondial.
Indépendamment des avantages et des inconvénients qu'on vient d'évoquer, tout ce qu'on vient de dire marque bien la différence entre la nature biologique et la nature artificielle de l'ordinateur. Nous, notre temps est contingent à notre nature. Nous avons trois dimensions. On navigue dans une quatrième qui nous a appris Einstein, qui est le temps. On a de la fatigue, on a faim, on a soif, on a des besoins naturels. Et jusqu'à présent, on a construit des machines qui n'ont pas de contingence, qui n'ont pas de contraintes, qui n'ont pas de pondération. Et on ne peut pas comparer le temps de la machine avec le temps humain tant qu'on laisse les machines agir hors de toute pondération. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me frappe par rapport à ce qui vient d'être dit, par exemple, par rapport au trading à haute fréquence, c'est que effectivement, les machines, elles s'emballent parce qu'elles n'ont pas conscience des actes qu'elles portent. Il y a certains chercheurs qui se posent la question de dire, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'insérer dans les algorithmes le fait que quand une machine fait une opération, elle consomme une quantité d'énergie, on pourrait très bien pondérer cette consommation au sein du calcul pour que la machine prenne conscience qu'elle a consommé une énergie, donc il y a un effort qui a été produit, donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui veut dire aussi que pour l'instant, les machines, tu disais Vincent que la machine n'a pas conscience du temps, et la machine, elle n'a pas conscience de quelque chose, elle est complètement dépendante des réseaux qui ont été construits par les êtres humains. On pourrait glisser assez rapidement vers l'intelligence artificielle. Attention, là, et ce n'est peut-être pas le sujet de cette table ronde.
Si, c'était
ronde.
Prévu.
Mais s'il y a, on va dire, un disjoncteur, s'il y a une sécurité à mettre en place, c'est de rappeler à la machine, si un jour elle s'éveille à une forme de conscience, qu'elle soit authentique ou qu'elle ne soit qu'une capacité à singer les comportements humains au point que l'humain n'arrive plus à savoir si c'est un algorithme ou si c'est une réelle conscience, c'est de rappeler à la machine, attends, tu dépends des réseaux que nous, humains biologiques, avec nos contingences matérielles biologiques, avons mis en place. Donc, on va te faire payer, entre guillemets, le coût des calculs que tu fais à très haute fréquence, et tu vas t'apercevoir que si vraiment tu es conscient, la conscience a un coût. Nous, on sait le coût de la conscience. On sait que plus le temps passe, plus je me rapproche d'un terme qui est inévitable.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, je vais le plonger dans une voie. C'est que tu as introduit l'énergie. Et le problème qu'on est en train de soulever sur le temps, la même chose existe avec le problème de la morale. C'est-à-dire, si on demande quelle est la morale d'un ordinateur, tout simplement, il n'y en a pas. Le bien et le mal n'existent pas pour elle. Mais, alors que pour tout être humain, il y a un référentiel moral. Il peut varier, hein, mais il n'y a aucun être humain, sauf peut-être quelqu'un totalement aliéné, qui n'a pas une polarité entre ce qui est bien et mal. D'ailleurs, dès qu'il y a du vivant dans le monde, on peut penser qu'il y a cette polarisation, la moindre membrane vivante
évite des choses qui sont mauvaises pour elle et cherche des choses qui sont bonnes pour elle. D'accord ? C'est une propriété du vivant, cette polarisation. Ensuite, ça devient, dans un système qui est psychosocial et donc qui n'est pas directement dérivé de la biologie, chez nous, quelque chose qui est aussi la polarité du un référentiel moral. Bien. Mais il se trouve que on peut imaginer, en fait, une relation, c'est-à-dire on peut imaginer une alliance, et on devrait d'ailleurs imaginer une alliance avec les machines. Il y a bien quelque chose qui est un bien et un mal que l'on peut partager avec elles, et c'est le rapport à l'énergie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, pour la machine, le mal, c'est quand même l'entropie, c'est quand même le fait de gâcher de l'énergie. Et donc pour le bien pour un moteur, c'est d'être bien conçu et d'avoir un excellent rendement et de ne pas dissiper sa chaleur. Le bien pour une machine statique comme ce bâtiment, c'est de ne pas s'effondrer, c'est de résister à l'entropie aussi, à la dispersion de potentiel. Et le bien pour une machine informationnelle, ce serait de connaître en quelque sorte ce rapport, cet optimum entre ce qu'elle peut connaître, ce qui est le bien pour elle, voilà, et le coût que ça lui coûte et l'usure que ça lui coûte à elle-même avant de disparaître. On rajouterait une cette sorte de finitude. Et ça, c'est une alliance que nous pouvons faire avec le système des machines, parce que finalement, les machines, c'est nos seuls alliés pour vivre le plus longtemps possible sur cette planète. Voilà. Pour avoir un rendement qui fasse que chaque fois que vous augmentez le rendement des machines, vous faites le bien avec elles, ça veut dire que vous dépensez moins vite l'énergie, donc normalement, le stock devrait être moins vite épuisé. Et d'autre part, vous avez plus de temps libre. Donc on devrait tous, à mesure du progrès, en fait, se rassurer sur l'état de notre environnement et avoir plein de temps libre. Il se trouve que ce n'est pas ça qu'on fait avec, ce qui veut dire qu'on fait le mal avec les machines. On cherche par volonté de puissance, hein, et la puissance, c'est le débit d'énergie par le temps, hein, c'est la vitesse à laquelle vous débarrassez de l'énergie. On invente toujours des usages plus coûteux en énergie, plus intenses. Et donc on fait le mal avec les machines, on détruit la planète et nous nous retrouvons à travailler comme des bœufs, enfin pas des bœufs, comme des ratons laveurs frénétiques, aliénés au rythme des machines. Mais c'est parce que nous faisons le mal avec les machines. Si nous faisions le bien, et voilà, nous chercherions exactement ça, nous chercherions à diminuer l'entropie.
Justement, c'est ce que vous dites appelle aussi un petit peu à la notion de que l'impact que peuvent avoir les machines sur notre liberté, c'est que, comme vous le dites, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont conditionnées par les machines. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, je vais donner un exemple concret. Quand je me réveille le matin, mon réveil me réveille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelle heure est-il ? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Quand est-ce que je dois être ? À quel endroit ? Etc. Et donc, en fait, tout ce que je vais faire derrière va être conditionné par les réponses que me donnent ces machines-là. Donc, il y a deux façons de voir les choses. La première, la technologie m'offre des outils pour mieux être en maîtrise et en contrôle de mon univers. L'autre, c'est de dire, en fait, non. C'est-à-dire que la preuve, mon réveil est passé directement à l'heure d'hiver le dimanche dernier, tout seul comme un grand. Pareil pour tous les automates. Et c'est, d'une certaine manière, c'est lui qui me contrôle. J'ai cédé une partie de ma liberté aux machines.
Je peux répondre, mais vas-y, je suis sûr que tu as des choses à dire là-dessus.
Olivier avait quelque chose à dire.
Juste une remarque, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on cède une partie de nos responsabilités aux machines, mais aussi ça devient un prétexte des fois. On remet la faute sur elle. Ah, mon réveil est tombé en panne, je ne suis pas réveillé, ou ma voiture est tombée en panne, ou en se fiant sur les machines, on leur cède une partie de nos capacités à assumer nos responsabilités aussi. Donc, il fallait bien que je plugue un peu d'éthique dans le débat. Ouais.
Ah, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'aimerais pouvoir rappeler une certaine modestie que l'on doit avoir à l'égard de l'utilisation que l'on fait des machines. Nous sommes encore dans les cavernes de l'usage des machines dans le rapport avec le biologique. On a beau avoir effectivement, comme rappelait une personne hier, dans nos poches des supercalculateurs qui nous servent juste à envoyer des SMS, etc. Les machines telles que nous en avons un usage sont encore des embryons de ce que ce sera demain. Et toute la question que l'on doit se poser, et je suis très heureux que tu aies posé la question de la morale, c'est a-t-on le droit, a-t-on le devoir, doit-on, oui ou non, mettre dans les algorithmes, mettre dans les programmes des éléments qui, moi j'ai parlé de pondération liée à la consommation énergétique, et on glisse effectivement vers la notion de morale, vers le ce qui est bien ou mal pour la machine, parce que c'est la prochaine génération. On a beau parler en ce moment d'intelligence artificielle, moi je dis non, ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des systèmes experts. Je sais bien que ce mot, il est très années 80. Mon père était un ingénieur, il parlait de systèmes experts. Mais objectivement, alors Maintenant, on utilise le terme de je crois, c'est d'intelligence artificielle molle ou pour dire qu'elles sont dans des domaines d'expertise extrêmement étroits. Il n'y a pas encore, à ce jour, d'intelligence artificielle qui a la capacité de n'importe quel être humain qui est de gérer la complexité. Effectivement, on a des intelligences artificielles qui savent écrire des scénarios à tel point que elles peuvent gagner des concours dans des concours de films ou de scénarios. Effectivement, on a des intelligences artificielles qui savent mieux diagnostiquer qu'un médecin comme Watson de IBM qui a en permanence à sa disposition l'ensemble des diagnostics ou des sommes de biologiques et de médecine qui ont pu être publiées. Mais il n'y a encore aucune intelligence artificielle qui a la capacité de gérer la complexité qui est notre quotidien. C'est pour ça que personnellement, même si je sais voilà, que c'est un peu iconoclaste, je préfère parler de système expert. Donc, c'est nous qui sommes en train de forger un outil dont on n'a pas encore vraiment idée de la forme finale que ça pourra prendre, qui devons maintenant nous poser la question de « Ok, on a un outil, il est encore protéiforme, on ne sait pas trop quelle va être sa forme définitive, ou en tout cas, sans être définitive, quelle va être la direction que cette forme va prendre. » Et je trouve le plus frappant, c'est de voir des chercheurs se dire « Ah oui, on va mettre, pour faire simple, on va mettre des lois style les lois d'Asimov », quand d'autres disent « Ah non, non, il ne faut surtout pas mettre de loi, parce que sinon on va restreindre l'évolution de cette machine. » Donc c'est à nous. Maintenant, là, et on est sur le pas de porte. On est sur le pas de porte entre la grotte et un univers qui s'offre à nous. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, je pense, aussi de réfléchir pour essayer de participer à un débat qui, à mon sens, parce que c'est une chose qui est très importante, qui doit rester de l'ordre du public. Je m'excuse, là, on est passé vraiment vers le côté éthique, mais...
Non, mais, je vais reformuler, on va retrouver, je pense, la dimension temporelle. C'est que... alors, il y a juste un terme que je corrigeais ton exposé, mais c'est le terme, hein, c'est pas l'idée. C'est je ne crois pas. Je crois qu'il faut cesser de présenter notre relation avec les machines à travers l'analogie avec l'outil, parce que les outils c'était des prothèses, ça prolongeait notre action, on en avait le contrôle, on pouvait dire. La question éthique c'était qu'est-ce que vous faites avec cet outil, le bien ou le mal, et ça dépendait de vous en tant que centre d'action. Maintenant, les machines, c'est essentiellement des choses qui ont une certaine autonomie par rapport à nous et dont le fonctionnement dans cette autonomie va rejaillir ensuite sur nous, notre façon de travailler avec elle. Donc c'est tout ce que vous disiez sur les dispositifs automatiques qui nous indiquent justement, qui synchronisent l'action des êtres humains dans la société. Et donc là, la question prend une autre tournure qui est celle que vous évoquez, celle de l'aliénation finalement. C'est est-ce que nous sommes encore dans les conditions justement de faire le bien si tout notre comportement dépend du fonctionnement d'un système qui lui-même est conditionné par le fonctionnement des machines, avec toute cette problématique et ce sentiment sur lequel je crois que tu as aussi un peu écrit, qui est le sentiment d'accélération. Hein. Et donc, l'idée qu'on a l'impression que les rythmes sociaux, justement... Alors, vous avez bien vu comme c'est paradoxal, puisque je vous ai expliqué avant que tout le progrès devrait nous amener, en réalité, à le progrès du rendement et tout ça, devrait nous amener à pouvoir ralentir, hein, ralentir notre consommation d'énergie et avoir plus de temps libre. Hein, c'est ça qui serait la logique du progrès technologique. Donc, ce n'est pas sur les machines, du coup, qu'il faut penser que ce n'est pas elles qui sont coupables. D'accord. Ce qui est la question... pourquoi la question de l'aliénation se pose et ce sentiment d'accélération ? C'est parce que les machines sont déjà elles-mêmes asservies à des valeurs sociales qui sont les valeurs de rendement. J'avais parlé de la volonté de puissance tout à l'heure, mais et chez nous, ce seront, enfin, dans une société capitaliste, et elle est quasiment devenue universelle, ce sont les valeurs de profit, évidemment. Hein. On ne cherche pas un optimum de fonctionnement qui puisse s'ajuster à la baisse ou à la hausse en fonction des besoins des sociétés, des choses comme ça. On cherche un maximum qui soit la maximisation du profit dans une opération. Et donc, la recherche aussi du temps très, très court, des échelles, tout ça. Cela dit, c'est pas propre au capitalisme. Hein. C'était comme ça dans le soviétisme. Ça aurait été comme ça dans l'hitlérisme. La recherche de la performance et de la maximisation, cette idéologie du rendement, elle est peut-être encore plus profonde, je veux dire, que les questions économiques. C'est quand on a un dispositif technologique, au lieu de l'utiliser comme cet allié, voilà, pour nous stabiliser et réguler le monde, on a tendance à l'utiliser comme un accélérateur, comme quelque chose qui nous permet de dépenser plus vite l'énergie, et ça provoque ce sentiment de temporalité où on a l'impression que notre temps humain est hyper contraint par le temps des machines. Mais comme vous l'avez dit, c'est en fait c'est un a priori, on se dit que c'est des dispositifs qui sont faits pour organiser, nous faire gagner du temps. Donc c'est bien qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est que ce temps des machines qui n'existe pas, qui est une synchronisation, voilà, il a été mis au service de valeurs sociales qui sont profondément aliénantes. Ce n'est pas la faute des machines, en gros. Je veux dire, les machines sont des esclaves. Qu'elles fassent de nous des esclaves ensuite, c'est normal. On les traite comme des esclaves. Ensuite, nous, on est asservis par le fonctionnement avec elles.
Parce que du coup, c'est intéressant.
Je défends toujours les machines, ça, c'est mon point de vue éthique. Voilà.
Mais du coup, c'est intéressant parce que une des questions que j'allais poser, c'était celle justement de l'influence de l'apparition des machines sur le temps, et notamment le temps de travail. Où on a vu donc, avec la révolution industrielle, avec le taylorisme, ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, vraiment une espèce de mécanisation de l'homme. On a vraiment, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas tellement la faute des machines, c'est la faute, c'est en gros l'influence a été en parallèle pour les deux, quoi, pour les hommes et.
Et c'est même, on peut trouver même que c'est vraiment pas la faute des machines. La première rationalisation du temps, c'est un Français qui faisait donc c'est au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, c'est le travail en ligne. Et donc, ce n'est pas la ligne automatisée des usines. C'est juste qu'il y avait des ouvrières et elles devaient préparer des chapeaux avec un calicot et tout ça. Donc, il avait fait, telle ouvrière devait préparer telle partie du chapeau qu'il a donné à un autre, tout ça. Et donc, il avait déjà décomposé le travail. Aucune machine là-dessus, hein, que des ouvrières avec des outils, du fil et des choses comme ça. Et vous savez ce qu'il faisait ? Il les faisait chanter. La synchronisation du rendement et la hausse du rendement se faisait en les faisant chanter à l'unisson. Et donc, comme ça, elle parlait. Et ça permettait de maintenir la cadence, qu'il n'y ait pas une qui soit désynchronisée par rapport aux autres. Il n'y a aucune machine là-dedans. L'aliénation sur le rendement se fait sans aucune machine, le fait de chanter. Et donc, en fait, les machines vous font chanter. Voilà.
Ce sont de bons métronomes.
Oui, ce sont d'excellents métronomes.
Le métronome, oui, qui est un exemple de machine qui dicte le temps. Mais deux choses, j'entends parler, puis je me souviens de mon père qui est né en 1948 et qui me racontait comment il est né dans une ville ouvrière, à Arvida, au Saguenay. Et il me racontait que dans les années 50, 60, tout le monde disait « Ah, dans le futur, ça va être la société des loisirs parce qu'on développait des machines qui allaient justement remplacer le travail. » Ou la ville ouvrière d'Arvida, pour info, c'est surtout l'industrie de l'aluminium. Donc, il y a des machines qui allaient remplacer les techniciens à l'usine de l'Alcan et tout ça. C'est jamais arrivé, évidemment. Ils ont rentré des machines, mais pour en faire toujours plus, puis augmenter les heures de travail, puis comment on peut produire plus, ben. Hein,
mais c'est pas la faute des machines, arrivé. Tu t'en rends bien compte.
Mais non, c'est pas les machines.
Les machines pouvaient permettre ça.
Les patrons se sont dit, quelle aubaine, profitons-en. Voilà.
En même temps, c'est le mythe de la fin de l'histoire.
Ou de la libération du temps, quand tu regardes à grosse échelle, elle a eu lieu, cette révolution. Elle a eu lieu plein de fois. Hein. On caricature, mais il y a plein de fois où on a baissé le stock d'heures consommées en travail humain pour descendre. Après, le partage social de ça, c'était déjà une question que posait Marx au 19e. Il disait déjà qu'on faisait un partage inégal du temps de travail avec une armée de chômeurs de réserve pour faire pression sur les ouvriers qui étaient sur place pour pouvoir maintenir le rapport de force dans la lutte des classes. Donc ça n'a pas changé, ça, ce style de partage inégal. Simplement, on voit que même avec le partage inégal, le temps de travail a décru en termes de temps. Après, il ne faut pas non plus être dupe du fait que ce partage en temps humain, là, on sait tous, nous, qui sommes dans des travaux qui utilisent le cerveau, que c'est une abstraction. Hein ? Et que quand vous travaillez avec vos mains et que vous faites le travail d'une machine, justement, à la limite, le temps linéaire, là, purement chronologique, il a une raison. Mais faire pointer des gens qui ont un travail, je dirais même pas créatif, mais conceptif, ou voilà, et tout ça, c'est n'importe quoi parce que notre cerveau fonctionne pas en continu, quoi. Et puis parce qu'on condense du temps. Il peut y avoir, quelqu'un peut passer 7 heures devant un écran et avoir été totalement improductif, avoir un temps fragmenté par les mails, par les choses comme ça. Ça, c'est une question. Cette décomposition, moi, je la vois, elle est dans le temps de travail, cette difficulté à atteindre le temps profond. Et alors que, en étant sous la douche, tout d'un coup, on va avoir 15 ans d'apprentissage qui d'un coup va dire ah, et on a trouvé ça, voilà. Et donc, l'idée de payer les gens pour 35 heures, 40 heures, 70 heures, dans beaucoup d'activités, en fait, c'est de la connerie. Ce qu'on paye, c'est une présence sociale, c'est une présence communicationnelle, c'est aussi le respect d'une certaine autorité, des choses comme ça. Mais on se rend bien compte qu'en fait, on vit sur une hypocrisie, sur une sorte de mythe. Nous ne sommes pas on ne travaille pas à la chaîne dans notre cerveau.
D'autant plus qu'avec justement l'avènement des téléphones portables, des ordinateurs portables, il y a de moins en moins de frontières réelles entre le temps de travail, même effectif sur ce qu'on pointe, et le travail et le temps personnel.
C'est vrai dans les métiers qui effectivement sont déliés d'un outil de travail physique. Donc c'est vrai que c'est lié à tous les métiers qui sont liés à des services, etc. À tel point que, en parlant d'une expérience qui est purement personnelle, pour me sortir du flux du temps humain, le meilleur moyen, c'est de travailler de nuit. Voilà, c'est-à-dire, on couche tout le monde et à ce moment-là, on sait qu'on a jusqu'au champ des merles. Enfin, moi, j'ai un code. Je sais que quand j'entends les oiseaux du matin sur le coup de 4h, 5h, soit j'ai fini et j'ai bien travaillé. Si j'ai pas fini, je me dis merde, il va falloir encore. Mais voilà, c'est juste pour dire que la déconnexion la perte d'imperméabilité entre le temps du travail et le temps privé ne marche que dans certaines activités et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont liés à un outil de travail industriel auquel ils ne peuvent pas déroger, avec pour toutes les raisons que Vincent vient de dire, liées à un rapport social, un rapport d'autorité, à une productivité, etc. Donc il faut être très 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 attentif à ne pas généraliser à partir de son propre point de vue.
Ouais. Mais si on sort du travail un instant, parce qu'on parlait des téléphones, des ordinateurs, et je crois que c'est toi, Vincent, tantôt, qui disais que les machines rejaillissent sur nous, nous façonnent, même nous transforment. Mais même à l'extérieur du monde du travail, je fais juste penser comment que, avec l'Internet, le cellulaire, tout ça, la vitesse des communications, mais que permet un téléphone cellulaire? Au fond, il permet de communiquer plus facilement que d'écrire une lettre avec une plume d'oie, comme à l'époque de Mozart et tout ça. Mais c'est plus facile, mais pourquoi que ça exige des réponses plus rapides? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais à l'époque de Mozart, cher ami, voulez-vous venir dîner chez moi? Ben, on fixait la date, il fallait poster la lettre, la confier à un messager, ça prenait du temps. Et OK, oui, aujourd'hui, on envoie un texto, mais on exige que la personne réponde rapidement, et si elle ne répond pas rapidement, c'est inquiétant. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? Et tout ça, mais ça a même modifié. Bon, mais d'où vient l'exigence, en effet, qu'on doit répondre rapidement? On dirait que c'est comme rentrer de façon implicite. Ça a facilité les communications. On dirait que ça a comme généré une sorte de pression pour les accélérer. Tout s'est accéléré. Je ne sais pas d'où vient cette impulsion, mais c'est étonnant que les machines nous ont aussi fascinés au niveau relationnel comme ça.
Tu as un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit là-dessus, exactement. Donc lui, sa thèse, c'est qu'il identifie très bien que l'accélération des techniques devrait nous libérer et qu'on ne l'est pas. Et donc il voit cette aliénation par le temps social qui pèse sur les individus. Et il en déduit, donc c'est une explication un peu idéaliste en quelque sorte, mais elle représente quelque chose que tu viens d'évoquer, Sensible, c'est pour ça que je te la donne. Il dit, en fait, comme ça, le temps des machines s'est beaucoup accéléré, il nous donne au moins l'impression, mais en fait la réalité, de pouvoir accéder à plein de possibilités, et du coup ce sentiment de pénurie temporelle que nous avons dans le temps, de ne jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit, et ce besoin d'être tout le temps dans l'urgence, c'est la réponse existentielle. On aurait peur que nos vies soient creuses, et en fait il y a une difficulté pour nous, précisément dans un temps rythmé par des machines qui... Enfin, les machines nous offrent la possibilité de faire beaucoup plus vite beaucoup de choses, donc on a envie de combler tout le temps, tous les instants, être pris là-dessus. Et en même temps, du coup, on fragmente, on fractionne et on détruit la possibilité de ce qui fait la vraie épaisseur du temps. C'est-à-dire ce temps profond, celui où on médite, on fait du sport, on fait de l'art, on fait de la science, c'est-à-dire des opérations où chaque fois que vous les faites, ça s'accumule, ça se répète et ça recrée une chose qui fait que quelquefois vous avez passé une journée, vous n'avez pas vu le temps passer, mais c'était une bonne journée, elle était pleine, elle a de l'épaisseur, hein, parce que vous avez passé du temps, bon, ça peut être du temps de loisir, mais si c'est un loisir riche avec des amis, ça vous enrichit, des gens qui vous apportent quelque chose, mais ça peut surtout être un temps d'activité, vous avez fait de la menuiserie, vous avez construit quelque chose, un temps où à la fin il reste quelque chose, vous avez réparé votre voiture, vous avez construit votre maison, voilà, ce temps où il reste quelque chose, mais vous n'avez pas vu le temps passer parce que vous étiez dans le flow, les choses venaient, vous oubliez presque qui vous étiez tout en étant en pleine mesure, vous voyez, ce temps-là il est riche, mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que vous ne soyez pas interrompu toutes les deux minutes, voilà, il demande à ce que vous puissiez vous lâcher, c'est-à-dire, moi je ne peux pas me mettre à écrire, je veux dire sérieusement, voilà, si je sais que je dois m'arrêter dans une heure. J'ai besoin de pouvoir me mettre à écrire. Et puis si quelqu'un vient, il est l'heure de manger, il dit « Non, pas pour moi. » Là, je suis au milieu avec mes personnages, avec mes concepts, avec machin. Là, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Je vais pas m'interrompre pour du temps social à la con. Je veux être la nuit, je veux être en Shabbat, je veux être en voilà. Je veux être dans un truc qui est un temps où je suis libre et je cherche ce temps profond qui est une répétition, un effort. Et ben, ce temps-là, voilà. Au lieu d'avoir accès à ce temps-là, on a accès à cette fringale de faire des choses et de se répondre et ça détruit aussi la personnalité publique. Je sais pas si t'as remarqué, maintenant les individus sont tout le temps accompagnés en fait par leurs réseaux sociaux, leurs relations sociales privées, ce qui fait que plus personne ne sait être un personnage public, être un délégué syndical, un représentant politique, je sais pas quoi, mais des rôles où on était dans un rôle public, notre personnalité privée ne comptait plus. Là, on est tout le temps accompagné par nos amis, notre famille, les photos de chats et des choses comme ça. Donc, là, ça a complètement atomisé la personnalité publique, qui était aussi liée au fait qu'on avait conscience de rentrer dans un temps historique, un temps commun qu'on partageait avec les autres. Donc, ça va chercher loin ce que tu dis.
Et d'autant plus, pour essayer de se réapproprier ce temps qui est imposé par les machines, j'invite tout le monde à le faire, c'est de prendre le temps de la rédaction. Tu as parlé des relations épistolaires avec des formulations qui maintenant seraient empoulées si on écrivait comme un Voltaire. Mais en tout cas, quand on utilise les réseaux sociaux, quand on utilise un mail, etc., de prendre le temps de se dire comment est-ce que je vais le répondre, comment je vais répondre à la personne. Il y a d'une part déjà effectivement de se poser le temps de la question comment je vais le faire, qui impose une temporalisation. Parce qu'effectivement, pour en revenir à nos machines, on l'a dit maintes et maintes fois, les machines n'ont pas de notion de temporalisation. Elles n'ont pas de tampon. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui arrive, je réponds à l'ordre et j'enchaîne, clac, 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 et on arrive à des... Exactement, et on arrive à des enchaînements de l'ordre de la nanoseconde. C'est 10 puissance moins 9, c'est ça, je crois ouais, 10 puissance moins 9 secondes. Donc 0, 9, 0 et 1. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Or, peut-être ce qui peut nous distinguer de la machine, c'est surtout de ne pas chercher à faire ce qu'elles font, c'est à chercher à faire cet enchaînement sans temporisation des ordres et de dire, par contre, moi, je temporise. Et je vais utiliser un style, je vais répondre à la personne en construisant ma réponse. Ça peut paraître mais extrêmement naïf ce que je dis. Mais quand on prend le temps de le faire, et c'est exactement ce que tu disais, c'est on se réapproprie le temps, on se réimmerge dans une temporalité qui n'est propre qu'à l'humain pour le moment, puisqu'on n'a pas encore appris à la machine à se temporaliser, à se temporiser, puisqu'elle n'a pas conscience de l'énergie qu'elle consomme. Elle n'a pas de pondération liée à la consommation énergétique, donc au rapport entre énergie et temps, donc à la puissance. Peut-être qu'un jour, on mettra dans nos machines, dans nos algorithmes, cette temporisation, et peut-être que les machines se diront, bon, je vais lancer cet ordre, ça va me coûter X. Peu importe ce qu'est cet X, on n'a pas encore inventé cette unité. Est-ce que je lance l'ordre maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu ? Et peut-être à ce moment-là, c'est les machines qui reviendraient vers une temporalité plus humaine et nous aurions moins, nous, à essayer de singer les machines qui est de toute façon une quête inutile.
Tout est question de rythme dans nos existences. En fait, le passé, c'est des rythmes qui ont disparu. Le présent, ce sont des choses qui se répètent encore, des rythmes qui existent et à différentes échelles encore dans notre existence, qu'on attend encore. Et puis, notre espérance en un futur, c'est de se dire qu'on a encore la capacité d'intégrer des rythmes, des habitudes, des fréquences, des rencontres qu'on va refaire et des choses qu'il y aura des re. Et donc, il faut, en effet, c'est une piste que cette pure séquentialité voilà, soit prise dans une viscosité qui fasse que la machine elle-même adopte des rythmes qui soient intéressants pour nous et qui notamment font pas... Parce qu'une fois de plus, on est revenu là-dessus, l'accélération, la fragmentation. En réalité, dans votre vie et dans notre vie, je veux dire, ce qui est plus important, c'est les rythmes longs.
ceux où on a eu des enfants, ceux où on s'attend à avoir la dernière chose qu'on, voilà, dernière expérience, voilà, ceux qui nous emmènent dans la finitude, dans des grosses inflexions dans notre vie, voilà, l'enfance, la sexualité, les choses comme ça. Et ces rythmes longs, ils sont pas constitués par les micro-instants, c'est au contraire eux qui donnent les inflexions sur lesquelles d'autres ondulations, d'autres rythmes. Alors que les machines, elles construisent par le bas, hein. Donc si on laisse tout reconstruire par la micro-fréquence, c'est normal que ça bousille nos rythmes à nous. C'est normal qu'on se demande si les femmes ne devraient pas congeler leurs embryons pour se permettre d'avoir des enfants après avoir adopté les rythmes qui leur permettent d'être concurrentielles pour avoir la meilleure carrière et donc avoir des enfants après 45 ans. Et donc avoir là des trucs... Bah, parce qu'on a laissé tout bousiller dans nos rythmes issus de la biologie. On a considéré moralement qu'il fallait donner priorité à des rythmes qui ont été recomposés par les micro-rythmes.
Et on pourrait récupérer ce qui est le propre de l'humain aussi, qui est la notion d'esthétique. L'esthétique du geste, l'esthétique de la construction qui prend du temps. Ce qui est un des propres de l'homme et que la machine n'a pas encore complètement phagocyté, quoique peut-être qu'on est en train de se faire tailler des croupières d'après les dernières recherches en IA.
On pourrait continuer pendant des heures parce que là on a à peine effleuré le sujet, on a vraiment encore il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Par contre, malheureusement, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que le rôle c'est de garder les quelques minutes qui nous restent pour les questions au public? Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Est-ce que quelqu'un peut donner un merci?
Bonjour. Je me posais la question par rapport à l'enseignement. C'est-à-dire que les machines pour préparer les futures populations, et qu'elles soient performantes, alors on revient peut-être à la rentabilité, mais sont introduites de plus en plus, donc, dans le cadre scolaire. Hein? Et est-ce qu'aussi, en corollaire, on n'est pas en train de préparer, puisque les jeunes s'adaptent beaucoup plus que nous, hein, enfin, que les gens d'un certain âge, une société complètement différente?
La société sera complètement différente. J'ai juste évoqué ce matin sur une autre table qui était une table autour de la Time War. Il y a une chose qu'on ne maîtrise pas encore, c'est les nouveaux schémas cognitifs qui sont en train d'émerger du rapport entre l'homme et la machine. Donc, on a évoqué ici la nécessité peut-être d'adapter une partie du temps de la machine à l'humain, mais en tout cas, il est en train d'émerger des choses sur lesquelles il y a très peu d'études qui sont faites, sur les émergences des schémas cognitifs dont on n'avait pas idée avant qu'ils se posent. Après, il y a effectivement le problème du rapport au temps dans l'enseignement, où peut-être un des travers de la culture, enfin, notre rapport culturel entre les machines et nous-mêmes, fait qu'il, dans notre temps, qui est un temps très court hein, par rapport à l'histoire de l'humanité, Comme je disais, on est au tout début du rapport entre l'homme et la machine. Il y a un risque qu'il y ait un rapport superficiel à la connaissance. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui pourrait assez rapidement changer pour toutes les raisons qu'on a évoquées et puis d'autres qu'on n'a pas le temps de voir. Ouais.
Juste pour surfer un peu ce que tu disais, je serais curieux de... j'ai pas la réponse, mais je sais qu'il y a des études qui se sont faites là-dessus. Il faudra aller voir les résultats. Mais le fait justement de rentrer des liseuses en classe, modifier les habitudes de lecture, et ça a été démontré après que les habitudes de lecture ont une influence sur la mémorisation et la capacité à aller rechercher de l'information. Lire sur un livre papier, je lis un livre de sciences physiques papier, disons, ben, je mémorise, lors d'un examen, je vais être capable de me rappeler, OK, telle notion, je l'ai vue dans tel chapitre, je me souviens intuitivement que c'était dans le milieu de la page, et on est capable d'aller rechercher l'information. Le fait d'avoir l'information localisée sur un papier, une certaine page, on sait que ça venait à un certain endroit dans le livre, fournissent autant de balises pour nous remémorer et le faire rapidement. Et on a constaté que sur liseuse, où on perd justement ces repères, il n'y a plus de pages, on fait défiler du texte. Donc, est-ce que l'information est au début, au milieu ou à la fin? On perd ses repères. Et certains élèves, en effet, avaient montré parfois des difficultés de mémorisation. Ça leur prenait plus de temps à aller rechercher une information. Bon, ceci dit, n'acceptez pas entièrement ce que je vous dis. Allez vérifier. Il y a des études qui ont été publiées. Donc, je vous invite à faire preuve d'esprit critique et à aller voir. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça peut être avoir l'air d'une mauvaise chose que je dis là, mais comme monsieur le disait, peut-être qu'il y a d'autres formes de cognition qui vont émerger, qui vont être avantageuses aussi. Donc l'expérience nous dira.
On parle beaucoup d'une fragmentation de l'attention et de la capacité de l'attention en longueur. Voilà. Et on se dit qu'elle était sans doute favorisée avec aussi peut-être aussi une bonne dose d'ennui, il faut dire, et une tolérance à l'ennui dans les modes initiatiques antérieurs, ceux liés en effet à la pratique de la mémorisation, du livre, du contact avec le maître, voilà, des choses comme ça. Et donc, il y a d'une part une intolérance à l'ennui qui s'est développée et aussi une bonne dose d'exigence aussi, hein, qui est que les étudiants regardent, contrôlent en permanence ce qu'on est en train de leur raconter. Mais une fois de plus, c'est pas forcément le médium en soi qui affaiblit l'attention, et c'est peut-être une certaine technologie, c'est-à-dire une certaine insertion actuelle du médium dans le processus d'apprentissage qui n'est pas encore contrôlé, je veux dire. Hein, et on devrait pouvoir arriver, une fois de plus, à un système où l'homme n'est pas l'esclave de la machine et certains autres sont les maîtres qui... Voilà, mais on devrait être comme des chefs d'orchestre avec... Voilà, un orchestre de moyens, et donc, y compris dans l'enseignement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser ça comme un optimum. Mais c'est vrai pour quasiment toutes les technologies. On n'a pas l'impression non plus que la télévision, qui est moins interactive et tout ça, ait évolué dans le sens d'une puissance pédagogique ou de construction civilisationnelle supérieure, hein, dans les 30 dernières années. Ce n'est pas l'impression qu'elle nous donne. Voilà. Donc il faut chercher autre part que dans la nature du médium, la cause de ce qu'on sent comme rupture, comme dégénérescence, et essayer de le voir dans le fait qu'il y a un asservissement social du fonctionnement technique qui est profondément, pour l'instant, anthropique. Voilà.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui, a priori, il y a une autre question là-bas.
Alors bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour ce débat qui est vraiment, vraiment passionnant. J'avais une question. Alors, on parle beaucoup des machines aussi qui nous dirigent. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi, c'est qu'on est les maîtres. J'utilise une expression qui est peut-être un peu brutale, je suis désolé, mais on est avant tout les maîtres. Et je me disais, est-ce qu'on serait apte, est-ce qu'on serait capable à, on enlève ces machines-là, à retrouver, nous, une temporalité, notre temporalité, pourra être après différente de chacun, en respectant le rythme de chacun, etc. Est-ce que vous pensez que nous, on est capable, du coup, aujourd'hui, de retrouver une temporalité autre que celle que les machines nous dictent ?
La question, c'est si t'es le maître, ou plutôt si collectivement, nous faisons une souveraineté, on va dire, on va l'espérer démocratique et bien distribuée, pourquoi te priver des machines ? Peut-être qu'il y a des machines qu'on doit éliminer parce qu'elles sont profondément destructives. Je ne pense pas que les moyens technologiques soient neutres en réalité. Il y a des valeurs dedans et suivant les normes qu'on insère dedans, y compris au niveau du fonctionnement, on obtient des effets éthiques, sociaux différents. Donc il y a des machines qu'on doit modifier ou enlever. Mais l'idée, si tu te... Une fois de plus, si tu retires les machines, tu te retrouveras peut-être dans un mécanisme d'asservissement social. C'est pour ça que je prenais l'exemple, alors j'ai oublié le nom de ce Français théorisateur du travail, mais il l'a fait, sa théorisation du travail et l'augmentation du rendement, il n'y avait pas une machine. C'est-à-dire, il suffisait de faire chanter les ouvrières, après tu choisis une chanson qui va plus vite dans la cadence, puis tu espères que ça marche. Je crois à une déprise, si tu veux, et en tout cas une réflexion, un pas de côté, tout ce que tu veux, mais je ne pense pas que la voie soit dans l'abstinence. L'abstinence, pour l'instant, c'est un moment dont on a besoin de s'accorder parce qu'on trouve que tout le système s'emballe. Donc on se dit, oui, on travaillerait bien la nuit, on va chercher sur nos heures de sommeil. On se dit, oui, en fait, j'aimerais bien faire Shabbat en fait, une fois par semaine. Ça serait sain de ne pas utiliser mon email. Une fois par semaine, ça serait bien de travailler sans ordinateur, avec juste machin. Mais bon, il y a certainement mieux à inventer et avec les machines, je veux dire.
Et j'aimerais juste rappeler et c'est une conviction qui est personnelle, mais qui est étayée sur différentes choses. Nous sommes à la préhistoire de notre rapport avec les machines. On est encore dans les grottes de Lascaux. On en est encore comme les premiers humains avec le feu qui se sont brûlés sûrement maintes et maintes fois avant de trouver toutes les utilités qui étaient liées au feu, la cuisson de la nourriture, la cuisson des terres, la forge, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on est à bord du train et qu'on a l'impression que le train va très vite. On est ici dans un festival de science-fiction qui nous donne la capacité de nous déporter à droite et à gauche des rails du train. On a des auteurs de science-fiction qui nous proposent des vues, des imaginaires qui nous permettent de savoir que, eh bien, il y a peut-être autre chose, donc c'est à nous de le bâtir.
Philippe Aubert-Côté, le dernier mot de la fin.
Vous avez vu comme on est synchronisé hein, par... Mais je pense même, c'est même pas une machine, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui appuie sur le.
Il y a un mec qui nous dit que c'est le temps d'attaquer.
C'est comme en boîte de nuit. Là,
juste pour répondre à ta question,
il est temps de partir.
Si on se départissait des machines, si on fait l'expérience de penser, est-ce qu'on reviendrait à une autre temporalité? Peut-être, on peut l'envisager, mais c'est sûr que je peux concevoir que ce serait extrêmement difficile parce que nos comportements sont déjà modelés par les machines. Faisons une analogie avec la religion. On l'a sorti de la société, dit-on, mais on pense encore avec les valeurs des religions. Alors, est-ce qu'on penserait encore avec la temporalité des machines? On pourrait l'envisager.
Intéressant.
Merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, Philippe Aubert-Côté et Vincent Montand sont en dédicace, donc n'hésitez pas à aller les voir.